Je laisse donc la parole avec plaisir à Étienne Brunet, qui est à la fois notre grand ancien et notre jeune vétéran, et qui est l'auteur d'un logiciel bien connu, dont je vais faire circuler un exemplaire. Il s'agit d'Hyperbase. Et depuis quelques années, Hyperbase a connu de grands développements dont nous allons voir par son auteur toute l'étendue.
Le sujet que je voudrais traiter, je vais m'approcher du micro, c'est la distance entre deux textes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse calculer la distance entre deux textes? Est-ce qu'il est imaginable qu'on puisse trouver la distance entre deux hommes? Entre deux cultures, est-ce qu'il y a des éléments matériels qui puissent apprécier cette distance? Eh bien, ça n'a pas empêché les archéologues, cette difficulté, de creuser les tombes, de creuser les ruines et d'avoir des outils qui permettent, avec leurs observations, de trouver où se situe une civilisation dans l'espace et dans le temps. Alors, n'y aurait-il pas, avec les textes, ce qu'on trouve avec les cultures, avec les civilisations, n'y aurait-il pas des éléments matériels qui permettraient à des instruments de mesure de trouver la distance entre les textes? Quand l'ordinateur est apparu, les littéraires lui ont donné cette mission-là. Ils se sont dit, ah ben voilà, le détecteur de mensonges ou le détecteur de plagiat. Voilà l'instrument qui va nous permettre de dater des textes, qui va nous permettre de trouver les textes apocryphes, qui va nous permettre d'attribuer tel ou tel texte à tel ou tel auteur. Et je crois bien que c'était un peu une illusion, car il n'y a pas dans ce domaine-là l'équivalent du carbone 14, il n'y a pas l'équivalent des empreintes digitales ou de l'ADN. On peut faire des essais, on peut trouver effectivement des différences qui sont mesurables entre les textes. Le problème, c'est que lorsqu'on les a trouvés, comment les interpréter? Est-ce que ce sont des différences qui séparent les auteurs? Est-ce que ce sont des différences qui séparent les époques? Est-ce que ce sont des différences qui séparent les genres ou les registres? Vous voyez déjà qu'il y a un éventail d'explications qui s'ouvre dangereusement devant l'interprétation. Conscient de ce problème, il y a 20 ans, avec on a le droit, quand on est vétéran, d'évoquer le passé, il y a 20 ans, avec le professeur Charles Muller, nous avions décidé de faire une expérience un peu comme les médecins en aveugle, en double aveugle. Lui fournissait les mots et moi je fournissais le traitement. Et la question était la suivante. Peut-on reconnaître les auteurs à travers les 60 mots les plus fréquents de la langue française? Peu importe si le 60e n'est pas tout à fait à sa place. Enfin, nous prenons 60 mots. Et nous empruntons les textes à trois auteurs très proches les uns des autres, afin de neutraliser le temps. C'était Hugo, c'était Lamartine et c'était Musset. Mais nous prenions pour ces trois auteurs des textes appartenant au genre romanesque, des textes appartenant à la poésie et au théâtre. Encore que Lamartine n'a pas fait beaucoup de théâtre. Et on donnait tout cela à la machine sans dire qui était l'auteur, sans dire qui avait écrit le roman. De toute façon, l'ordinateur ne le sait pas. Hein. Il a des textes qui sont numérotés. Il y a le numéro 1, le 2, le 3. Il y en avait donc une douzaine. Et à la fin, la question était la suivante, posée à l'ordinateur, dites-moi combien il y a d'auteurs. Et il a répondu magnifiquement, il y en a trois. On était très contents. Il avait reconnu trois auteurs. Il a dit, il y a un dramaturge, il y a un poète et il y a un romancier. Voilà, il avait trouvé les genres au lieu de trouver les auteurs. Voilà, c'était une expérience, évidemment, si on l'avait faite exprès, c'était dans cette intention de montrer que le genre, généralement, est plus puissant que les autres facteurs qui peuvent intervenir dans la différenciation des textes. Alors, depuis 20 ans, j'ai quand même essayé d'aller plus loin dans ce domaine-là. Et je vais tenter de vous montrer à partir de certains transparents. J'avais prévu de faire quelque chose sur la machine, mais elle refuse de ses services aujourd'hui. Alors tout à l'heure, peut-être pour une démonstration, je prendrai la machine de mon collègue Micha Bernard. Alors, ce sont les différents corpus que je vais essayer d'explorer, d'exploiter devant vous. Alors, avec les mots en rouge et peut-être les visages que vous reconnaissez, tout à l'heure, vous pourrez m'entraîner sur l'un ou l'autre de ces différents auteurs. Je signale qu'il y a tout à fait en bas des synthèses encore plus puissantes, l'une qui s'appelle Époque et qui envisage tout franc-texte, enfin tout le franc-texte littéraire, c'est-à-dire 120 millions de mots. Ils sont tous là, exploités de façon statistique. Le texte n'est pas là, mais tous les éléments statistiques sont là. Et puis il y en a une autre qui est un peu moins considérable parce que je n'ai choisi que les auteurs. Mais ce que j'envisage dans dans ce corpus-là, c'est 70 auteurs que j'estime être les mieux représentés dans franc-texte. Et puis, il y a une autre base qui considère la francophonie, c'est-à-dire je voudrais comparer le Québec à la France et à l'Algérie et aux différents pays qui partagent l'usage du français. C'est ce que j'appelle la base pays. Et enfin, il y en a une, mais malheureusement, celle-là. C'est pour appuyer quelque part. Voilà. Et donc, la dernière, envisage les genres, mais malheureusement, celle-ci n'est pas très complète. Il faudrait mettre tous les genres ensemble. Or, là, je n'en ai qu'un seul que je puisse montrer, c'est le théâtre classique. Bon. Alors, le premier transparent est le plus ingrat, c'est celui-là. Comment peut-on établir une distance? C'est malheureusement de la mathématique, et je vais passer très vite, parce que je voudrais décourager personne. Le premier procédé, c'est presque le plus naturel quand on veut comparer deux textes. Il s'agit de ne pas faire une comparaison ponctuelle à partir d'un mot ou d'un autre. Il s'agit d'envisager tout l'espace textuel, tous les mots d'un texte et tous les mots d'un autre texte sans rien enlever. C'est ça qui me semble être la meilleure proposition pour établir une distance. Alors, c'est ce qui est justement dans le premier exemple que vous voyez là, dans celui qui s'appelle Jacquard. En réalité, je l'ai trouvé dans Müller il y a 30 ans, et c'est depuis lors que j'ai su que ça s'appelait Jacquard, que Jacquard avait proposé quelque chose qui est simple, qui consiste tout simplement à voir quels sont les mots qui sont commun à deux textes, c'est l'intersection, c'est ce qu'on appelle ici le numérateur, c'est l'intersection. Et puis, comme pondérateur, on prend l'union des deux, c'est-à-dire le volume, le vocabulaire, des deux textes réunis. C'est simple. Or, malheureusement, ce quotient, même s'il est pondéré par une moyenne arithmétique, géométrique ou harmonique, même avec ces pondérations-là, Ce coefficient dépend de la longueur des textes. Et donc, Müller y avait renoncé il y a 30 ans parce que, justement, on ne trouvait pas le moyen de pondérer correctement. Or, il peut très bien se trouver qu'on veut comparer deux textes qui ne sont pas d'étendue égale. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment, tout de même, il est très facile de corriger ce défaut-là de façon automatique et sans aucun problème. J'épuise cette liste-là parce que je ne voudrais pas passer mon temps là-dessus. Il y a aussi une technique, mais il y a dans l'Assemblée ici quelqu'un qui connaît beaucoup mieux que moi, que j'ai cité ici, Bénédicte Pincemin, qui est là dans l'Assemblée, connaît cette méthode, puisqu'il a appliqué le fait ses thèses là-dessus, celle de Salton, puisque c'est en Amérique, et ça s'appelle l'espace vectoriel. Bon, vous lui poserez à elle des questions, j'évoque simplement cette mesure. D'autres encore que j'ai trouvées dans la littérature russe, non seulement le premier ici, mais celui-là, et celui-là également. Les Russes se sont beaucoup occupés de ça. Et puis j'en viens, vous voyez que je ne voudrais pas vous assommer avec des calculs, j'en viens à Müller. Müller avait proposé, en même temps que la méthode de Jacquard, avait proposé une autre méthode qui consiste à utiliser la loi binomiale en réunissant les deux textes et dans cet ensemble, en comptant combien de mots apparaissent une fois, alors ils sont soit dans l'un, soit dans l'autre, combien de mots apparaissent deux fois, ils peuvent être dans l'intersection, les deux occurrences dans l'intersection, mais les deux peuvent se trouver aussi dans le premier texte seulement ou dans le deuxième texte. Et puis vous voyez que ça se complique avec les mots qui sont employés trois fois, ceux qui sont quatre fois, etc. Et le calcul demande des programmes un peu lourds. Je vous en montrerai quand même un tout à l'heure. Et la distance s'établit avec le qui deux. Bon, ne me demandez pas trop d'expliquer le qui deux. La plupart de ceux qui sont ici connaissent ce mot-là. Comme je ne veux pas passer trop de temps sur la méthode, j'en viens. Et tout ça, je vous montrerai les exemples de toutes ces méthodes, juste après. Mais il est bon, de façon synthétique, de les avoir tous ensemble. La méthode de Labelle est nouvelle. Elle a été exposée à Lausanne au printemps dernier. Et c'est une formule que, c'est pas lui qui l'a intitulée comme ça, c'est moi qui l'ai proposée sous cette forme-là, parce qu'elle était assez facile à comprendre. C'est la sommation pour tous les mots d'un texte, de ce qu'on trouve réellement dans le texte A et de ce qu'on devrait trouver si, proportionnellement au deuxième texte. Théoriquement, le mot en question, si on établissait sa probabilité à partir du deuxième texte, donne un effectif ou une fréquence théorique dans le premier texte. On fait donc l'écart. Et ensuite, la pondération se fait avec les mêmes données. Et avec un plus, au lieu d'avoir un moins. Enfin, dernière méthode, c'est celle de André Jalem, enfin, il y en a bien d'autres qui l'ont utilisé avant lui. C'est tout simplement prendre tous les mots et de dire que c'est un tableau de contingence qui aura peut-être des milliers de lignes et on va faire une analyse factorielle directement sur cet immense tableau. Et ça marche très bien. Voilà. Je reviendrai, s'il le faut, tout à l'heure, à ce tableau théorique des différentes méthodes. Voici la première. La première, c'est la première de Jacquard, où tout serait simple si les textes étaient d'étendue égale. Alors là, nous aurions trois cas de figure possibles. Vous avez le texte A qui est là, le texte B qui est là, et puis ici nous avons les mots communs. Mettons qu'il y en a 300 ici, et qu'il y a donc 700 exclusifs ici, et 700 exclusifs dans le texte B. Alors la distance pourrait être, je prends donc ce qui est exclusif, c'est donc A moins AB, c'est-à-dire toute cette partie-là, tout le rond bleu, moins la partie commune, et ça me donne donc le numérateur que je divise par l'ensemble du vocabulaire de A, c'est-à-dire A, et ça me donnerait par exemple ici 0,7. Ici, on voit très bien que les deux cercles sont plus proches l'un de l'autre, que la zone de recouvrement est plus grande, et donc là, nous aurons une indépendance qui sera plus faible. Indépendance, ça veut dire presque la même chose que distance. La distance sera plus courte, car il y aura presque une éclipse totale. Et là, au contraire, vous voyez très bien que vous avez les deux disques qui se séparent, que l'intersection ici est plus faible, et donc que les deux textes sont plus distants. Ça, c'est parfait. Ça parle tout à fait à l'évidence, à l'œil, à l'esprit. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses se passent d'habitude. D'habitude, nous avons des textes qui sont inégaux. Le cas le plus extrême, c'est quand un texte est tout petit est inclus dans un plus grand. À ce moment-là, tous les mots de ce texte-là appartiennent au texte qui est plus grand, et donc la distance du petit au grand, elle est zéro. Il n'y a pas de partie privative, il n'y a pas de partie exclusive. Alors, généralement, ce n'est pas ce cas-là qu'on observe, mais des cas comme celui-ci, où vous avez un grand et un petit. Si j'exprime avec un quotient, avec le même quotient, L'indépendance du grand par rapport au petit, il y a une large marge de manœuvre. Le grand a beaucoup de mots qui n'appartiennent pas au petit. Donc, le rapport de ce qui lui est propre, de ce qui lui est exclusif, va être proche de 1. Tandis que le petit qui est là, eh bien, il a une grande partie qui est commune avec le plus gros et une toute petite partie exclusive. Et donc, sa partie exclusive va être proportionnellement très faible. Donc, quelque chose comme 0 et quelque chose, ça va s'approcher de 0. Donc, de ces deux distances, suivant qu'on part de A vers B ou de B vers A, ces deux distances sont symétriquement éloignées. L'une s'approche de 1, l'autre s'approche de 0. L'idée, malheureusement, Müller ne l'avait pas eue, l'idée, c'est de plaquer l'un sur l'autre ces deux quotients et ils s'annulent l'un l'autre. Les distorsions s'annulent l'une l'autre. Et on obtient quelque chose comme, par exemple, 1,04. Si je fais la somme, simplement, si je divise par 2, ça fera 0,5, quelque chose comme ça. Et ici, nous avons bien les mêmes textes qui ont la même disproportion d'étendue, mais le petit s'est un peu écarté. On a une éclipse moins totale ou plus partielle. Et à ce moment-là, vous voyez que le rapport, la distance, ici 1,28, s'obtient et qu'elle signale qu'elle est plus large que la précédente. Voilà la correction, elle est simple. Deux quotients qui s'éloignent symétriquement, il suffit de les superposer l'un sur l'autre, et voilà, nous avons la distance aller-retour. Vous avez une indépendance réciproque. Ce n'est pas forcément idiot. Quand vous faites la distance entre le haut de la montagne et le bas de la plaine, vous pouvez la calculer de façon linéaire, en distance, avec des kilomètres. Mais vous pouvez la calculer aussi avec une montre. Et pour aller en haut de la colline, il faudra davantage de temps que pour descendre. Et on pourrait très bien imaginer le temps moyen pour aller de l'un à l'autre, ou le temps total pour faire tout le tour. C'est ce que je fais ici, c'est le temps total, c'est la distance totale, aller-retour. Voilà. Je ne ferai pas le même exposé pour toutes les méthodes, mais voici un exemple où j'applique cette méthode à l'ensemble de Victor Hugo, les œuvres de Victor Hugo. Elles ne sont pas toutes représentées, je sais, mais il y en a quand même une grande partie, à peu près les deux tiers. Ceci est une analyse factorielle faite sur les quotients obtenus indiquant les distances. Or, que voyez-vous? Vous voyez la gauche et la droite s'opposer, et qu'y a-t-il dans la droite? Vous avez la poésie, avec des recueils comme les rayons et les ombres, les feuilles d'automne, la légende des siècles, 1, 2 et 3, et les chansons des rues et des bois, et puis la fin de Satan. Et bien entendu, par-dessus tout, les contemplations. Vous voyez, toute la poésie n'est pas là, les premiers recueils n'y sont pas, mais c'est quand même une grande part de la poésie de Hugo. Vous voyez que tous ces textes-là sont proches les uns des autres dans l'analyse factorielle, et s'opposent à quoi? Ils s'opposent à ce qui est prosaïque. Et le plus prosaïque dans la prose de Hugo, ben, c'est la correspondance. Ce sont les lettres à la fiancée et les différents niveaux de correspondance suivant les époques. Quant au deuxième facteur, lui aussi, il est sensible, non pas à la chronologie, mais il ne semble pas que ce soit la chronologie qui soit là dans ces deux premiers facteurs. Ce qui s'oppose ici, c'est le théâtre, avec 4 pièces, Marie Tudor, Lucrèce Borgia, Hernani et Ruy Blas, qui sont tout à fait en haut et qui s'opposent au bas, où vous avez les romans, Notre-Dame, Les Travailleurs de la Mer et Les Misérables 1, 2 et 3, parce que c'était très gros, je les ai divisés en 3 parties. Et puis aussi, quelque chose qu'on ne sait pas trop placer, mais généralement, la place du Rhin, c'est justement, c'est un récit de voyage, mais c'est un peu romancé, et ça a la technique du roman. Est-ce que la chronologie apparaît ici dans ces deux premiers facteurs? Non. Non, c'est véritablement le genre qui explique les choses. Par contre, il y a tout de même dans les analyses factorielles une sensibilité qu'on peut voir sur le troisième ou le quatrième facteur. Généralement, on ne va pas voir ces facteurs-là, mais si on regarde bien, les facteurs 3 et 4 de la même analyse montrent qu'il y a une opposition entre la première période, c'est le troisième facteur, et la dernière période, si je prends le texte comme ça, et je suis la chronologie, approximativement. Et puis, sur le quatrième facteur qui oppose le haut et le bas, il y a encore une explication qui fait que tout ce qui est de l'ordre du réel, comme les lettres, la correspondance, ou la poésie, s'oppose à ce qui est fictif, comme le théâtre ou le roman. Bon, voici un premier exemple où l'on voit que cette distance calculée selon la méthode Jacquard rend des résultats tout à fait probants. Qu'on peut détailler en suivant une colonne particulière ou une ligne particulière, mais comme c'est un tableau qui est un tableau carré, symétrique, les colonnes et les lignes, ce sont les mêmes choses. Isolons par exemple dans un autre corpus que je vous ai montré tout à l'heure, un corpus qui s'appelle Pays. Isolons le rivage des Sirtes. Je sais que dans l'Assemblée, il y a au moins une personne qui a beaucoup étudié le rivage des Sirtes. Et voyons à quelle distance il se situe par rapport à tout un ensemble de textes, dont certains sont des textes oraux, d'autres sont des textes techniques, des journaux, d'autres sont des textes littéraires de différents pays. Eh bien, le rivage des Sirtes a une distance assez faible avec les chouans de Balzac. Justement, Julien Gracq a beaucoup écrit sur les chouans de Balzac, et c'est vraiment très curieux de voir que l'un des textes les plus proches de, parmi ceux que j'avais choisis, c'est justement les chouans de Balzac. Et par contre, lorsque vous voyez ces distances très hautes, ces sommets qui sont là, c'est l'oral. Ce sont les différentes interviews qui avaient été faites dans différents pays, et tout cela commence par un haut, ce qui veut dire que ce sont des textes oraux. Et ceux-là sont encore plus élevés, des pics encore plus élevés, c'est ce qui est technique. Rien ne s'oppose plus à la littérature que ce qui est technique, ce qui est journalistique, ou ce qui est ouvrage de vulgarisation ou de science. Bon, prenons un autre texte, qui est pourtant un texte très littéraire, et où vous n'avez pas du tout, avec le même corpus, vous n'avez pas du tout les mêmes alliances et les mêmes propositions. C'est Rigaudon, de Céline. Vous voyez que Rigaudon prend ses distances avec la littérature de son temps, prend ses distances naturellement avec la presse, avec les ouvrages techniques, mais se rapproche considérablement du discours oral. On l'a remarqué depuis longtemps. Ce n'est pas de l'oral, mais il y a dans l'accent de Céline quelque chose qui ressemble à de l'oral, et la distance ici calculée le montre assez bien. Une vue plus générale de ce même corpus vous donne une analyse factorielle, toujours avec cette même distance, qui oppose considérablement tout ce qui est technique ici à tout ce qui est littéraire là. Et la deuxième opposition, c'est ce qui oppose tout ce qui est oral à ce qui est écrit. Vous allez me dire, on s'attend à des grandes divisions comme ça, mais beaucoup de gens auraient pensé que ce qui s'oppose le plus dans les discours qu'on prend dans tous les genres, eh bien, on a l'impression que c'est ce qui oppose l'oral à l'écrit. Eh bien, je ne pense pas. L'opposition est davantage entre ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce point de vue-là, mais j'ai eu l'occasion de le développer à d'autres moments. Bon, allons plus loin maintenant et essayons une deuxième méthode. La méthode qui consiste à faire un immense tableau de contingences en choisissant tous les mots, ce sont des lignes, et les colonnes, ce sont les différents textes. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, ben, vous avez le mot en question qui est employé tant de fois dans tel texte. En reprenant le dernier corpus, eh bien voilà ce qu'on obtient. On obtient d'ailleurs la même image que la précédente. Vous reconnaissez que tout ce qui est technique était à droite, c'est encore à droite. Tout ce qui est oral était en bas, vous l'avez encore, ce sont les mêmes. et tout ce qui est littéraire et écrit se trouvait là-bas. C'est la même reproduction et deux méthodes complètement différentes. L'une considère tous les mots et surtout les mots fréquents parce que, enfin cette dernière méthode, parce que les mots qui sont des apax, c'est-à-dire des mots employés très peu, ne peuvent pas donner lieu à des calculs. On ne peut pas faire la fréquence théorique d'un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc on annule, ces mots-là disparaissent du calcul. Il n'y a plus que les fréquences les moyennes et les plus hautes. Enfin, il y en a des milliers, mais il n'y a pas toutes les fréquences, en particulier les basses fréquences, n'entrent pas dans le calcul du guideux. Inversement, l'autre méthode que je vous ai montrée tout à l'heure était très sensible, puisqu'elle est fondée sur les exclusivités. Justement, les apax, ce sont des mots exclusifs. Ils participent grandement au calcul. C'est donc deux aspects du vocabulaire assez différents, même étrangers, presque l'un à l'autre. Deux méthodes, l'une sur les fréquences élevées, l'autre sur les fréquences basses, qui aboutissent pourtant au même résultat. C'est un peu comme si vous aviez une boule à photographier. Vous la photographiez là, vous me placez à gauche et vous la photographiez. Après, vous dites, oh, mais c'est partiel, mon point de vue est partiel. Vous mettez l'autre côté, vous photographiez la boule, vous avez la même image. Et bien, le langage, c'est peut-être un peu comme une boule. On peut le prendre de plusieurs points de vue et puis on obtient la même typologie des textes. Et là, vous avez un exemple. Voici un autre exemple, beaucoup plus proche de nous, l'autre l'était aussi. C'est le corpus du Monde. Tout le monde connaît ce corpus. Là, je l'ai exploité une partie seulement, parce que c'est énorme. Une partie, quand même, ça faisait bien une dizaine de millions de mots, qui recouvraient l'année 94 et l'année 95. Donc, il y a 24 mois. 24 mois, je demande à la machine... Prenez-moi tous les mots les plus importants, enfin les fréquences élevées, mais il y en avait quand même 5485 lignes. Donc, vous voyez, c'est quand même considérable. Vous voyez, un immense tableau où il y a 6000 lignes. Et puis, il y a 24 colonnes. Et cela donne ce que vous voyez ici. Les premiers mois... Ah, j'ai essayé de ce petit engin, là. Les premiers mois, ici, se suivent presque dans l'ordre. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8... Ensuite, vous avez les mois intermédiaires qui vont de 9 jusqu'à 16. Le 17 qui fait la transition. Et là, nous avons les 8 derniers mois. Alors, je sais bien que dans un journal, les événements se suivent. On suit les événements qui n'ont pas de lien logique les uns avec les autres. Et qui se mêlent, qui s'entremêlent. Il peut très bien être question en 94 des élections et puis en 95 des élections, mais ce ne sont pas les mêmes. Et donc les événements, eux, ils sont inextricables. Et pourtant, ça vous donne une ligne très, très, je veux dire, très droite. Non, elle n'est pas très droite, mais c'est ce qu'on appelle le croissant. Quand vous avez des données sérielles, ils se répartissent selon la forme d'un croissant. Ça veut dire que c'est linéaire. C'est quand même bizarre qu'un croissant soit linéaire, mais c'est comme ça que la représentation se fait. Voilà, j'ai épuisé deux méthodes. Est-ce que j'ai épuisé mon temps de parole? Pas encore. Voici une troisième méthode. Elle est plus ancienne, celle-là, parce qu'elle remonte il y a 30 ans à Charles Muller. Et c'est un peu ce que j'avais essayé d'expliquer tout à l'heure, mais je n'étais pas allé au fond des choses. Et voici deux textes. C'était au moment où je faisais une thèse sur Giraudoux, et il y a un premier texte qui s'appelle Simon le pathétique, et un deuxième texte qui s'appelle Suzanne et le Pacifique. C'est un roman merveilleux qu'on ne lit plus beaucoup maintenant, mais qu'on devrait lire davantage. Alors, on réunit ces deux textes-là pour faire un seul texte, et on voit combien il y a de mots qui sont employés une fois. Alors, combien y a-t-il qui sont employés une fois? Eh bien, il y en a 3216. Et 3216 se répartissent comme suit, 1275 dans l'un et 1941 dans l'autre. Bon, alors les mots qui sont employés deux fois, eh bien, il y en a 1228, alors c'est la diagonale qui est là, 249 exclusif dans le premier, 503 exclusif dans le deuxième et 476 bien partagée, c'est-à-dire à l'intersection, une fois dans l'un, une fois dans l'autre, etc. etc. Le calcul, comme vous pouvez penser, est immense. Alors, mais il ne s'agit pas simplement de relever les mots qui sont employés une fois, deux fois, trois fois, à l'intersection ou pas. Il faut savoir aussi quel devrait être le tableau théorique. Théoriquement, si la répartition était étale ou égale dans les deux textes, qu'est-ce qu'on devrait obtenir comme effectif? Eh bien, ce sont ceux-là. Ça se fait avec les règles de 3. Après, quand on a l'effectif théorique et l'effectif réel, on fait un écart. Un écart absolu et enfin, un écart transformé de façon statistique en pi 2. Et puis, pour avoir la distance totale, il faut additionner tous ces pi 2 qui sont là et pour obtenir celui-ci en tenant compte des cases qui sont vides. Ce problème du pi 2, c'est qu'il n'est pas valable lorsque les effectifs théoriques sont trop faibles. Alors, il faut cumuler ce moment-là. Bon, le résultat, c'est là. Pour une comparaison, mais comme il y avait, je crois, une vingtaine de textes qu'il fallait comparer les uns aux autres, ça faisait 20 au carré divisé par 2, donc à peu près 200. 200 calculs comme celui-ci. Alors, le résultat d'un tel calcul, le voici. Pour ceux qui sont spécialistes de Giraudoux, il est très clair. Il est extrêmement clair puisque vous avez d'un côté les romans et vous avez d'autre côté le théâtre. Giraudoux, pratiquement, s'est borné, à part ses discours politiques, s'est borné à ces deux genres. Mais non seulement vous avez cette différenciation entre les genres, mais vous avez également la chronologie qui apparaît, puisque là, nous avons les romans de la première période, ceux de la deuxième période et ceux de la troisième période. Quant aux pièces, elles se répartissent également en deux espèces, deux grandes espèces, les pièces modernes et puis les pièces antiques. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait peut-être lieu de distinguer entre les deux adaptations, mais on pourrait très bien dire que les adaptations font partie des pièces modernes. C'est très clair, c'est très clair. L'embêtant, c'est que le calcul est beaucoup trop compliqué et qu'en plus, il doit, pour aboutir à quelque chose d'aussi clair que ça, il doit être pondéré. Alors, c'est un peu dommage de pondérer des petits deux. Alors, je crois bien que cette évidence est la seule qui ait jamais été tentée. Je n'ai jamais vu dans la littérature spécialisée quelqu'un qui ait tenté de refaire ces calculs-là. Voici pour la même distance comment on peut aussi représenter les choses. Ça s'appelle l'analyse arborée. L'avantage de l'analyse arborée pour les distances textuelles par rapport à l'analyse factorielle, c'est que l'analyse factorielle a un premier facteur, un deuxième facteur, un troisième et un quatrième, si bien que la lecture en est quand même un peu difficile parce qu'il faut regarder tous ces facteurs-là. L'analyse arborée a l'avantage de représenter tout en un seul graphique linéaire en plus. Et vous le voyez ici, tous les textes se répartissent suivant leur affinité, suivant leur proximité. Par exemple, Sodome et Gomorre est très proche de Lucrèce de Borgia. Et ensuite, c'est Ondine qui se rapproche après Électre, après la guerre de Troie, après Judith et enfin Amphitryon. C'est d'ailleurs l'ordre chronologique. Parmi les pièces modernes, eh bien, elles s'échelonnent ici selon cette route. Et quant à la production qui est romanesque, c'est tout ce qui est là, avec également des romans qui sont de la première période, les quatre premiers sont là, vous voyez très bien qu'ils sont sur cette dérivation, les suivants sont là, ils sont assez proches les uns des autres. Sachez que pour lire un tel graphique, il faut mesurer les distances. Il ne faut pas chercher à savoir si ça tourne ou si ça ne tourne pas, c'est simplement parce qu'on a un espace sur le papier ou sur l'écran un peu restreint, donc on fait tourner les choses, de façon à tous les représenter. Mais vous ne pouvez pas voler comme un oiseau d'un point à l'autre. Vous devez suivre les chemins. Et donc, pour savoir quelle est la distance entre l'un et l'autre, il faut obligatoirement faire tout ce chemin-là pour aller rejoindre. Vous voyez que la distance est longue. Pour aller de Juliette à Bella, il faut faire ce petit chemin-là très court. Bon, graphiquement, ça se reconnaît, mais l'illusion d'optique, c'est de faire du vol d'oiseau. Non, il faut suivre les routes. Et là, les trois chronologies, les trois périodes chronologiques, ici, sont très, très visiblement différenciées. Eh bien voilà, j'ai déjà utilisé trois méthodes. En voulez-vous une autre? La plus récente, c'est celle qui est proposée par Dominique Labbé. Et elle porte non pas sur la première méthode Jacquard, c'est-à-dire un mot était considéré selon son absence ou sa présence, peu importait sa fréquence. Donc un privilège qui était donné au mot rare. La deuxième méthode, la troisième aussi, considérait les fréquences. Et c'est justement ce point de vue que Dominique Labbé adopte, et il a raison de le faire, parce que pour dire que tel mot qui est commun à deux textes rapproche ces deux textes, encore faut-il qu'il ait une distribution à peu près semblable. Si vous avez deux textes égaux et qu'un mot se trouve une seule fois dans l'un et 19 fois dans l'autre, vous ne pouvez pas dire qu'il contribue à rapprocher les deux textes. Il contribue plutôt à les éloigner parce qu'il est distribué de façon très anormale. Alors c'est donc la fréquence qu'il faut tout de même envisager et pas simplement le fait qu'un mot soit commun ou ne le soit pas. Alors encore un autre corpus, c'est celui de Rousseau. Appliquons cette méthode de Dominique Labbé qui considère la fréquence, qui est sensible au fait qu'il y a des différences d'emploi dans un texte et dans l'autre. Alors, vous voyez que ceux qui connaissent Rousseau reconnaîtront que Rousseau a tâté à beaucoup de genres, dont certains sont purement politiques, comme la Constitution sur la Corse, qu'on va lire ces temps-ci, et d'autres choses sur la Pologne, le discours sur l'inégalité. Vous voyez tout ce qui se trouve en haut à droite. Ici, voilà, appartient à la politique. Ensuite, avec l'Émile, on aborde le système éducatif, le système plutôt pédagogique et même social, avec d'autres textes comme D'Alembert, le serment sur la montagne, et ça devient même religieux à cet endroit-là. Et puis, ici, sous ces textes réunis autour de la Nouvelle-Héloïse, car ce sont des morceaux, il y a six livres dans la Nouvelle-Héloïse, on les a étudiés séparément, et ils se touchent les uns les autres. Si vous aviez un texte apocryphe de la Nouvelle-Héloïse qui aurait été découvert, eh bien, avec cette méthode, on verrait s'il se trouve raccroché à ce wagon-là. Et puis après, à partir du Devin Village, eh bien, nous abordons quelque chose qui est plutôt la fiction avec les rêveries et surtout avec les confessions. Et là, c'est plutôt la littérature personnelle. Voilà donc le schéma obtenu avec la distance de l'abbé. Et ça me paraît être un schéma assez clair. Où la chronologie n'apparaît pas immédiatement, c'est plutôt ici le genre qui est souverain. Ce corpus-là est le plus gros de tous, car il envisage l'ensemble de la littérature française depuis le XVIIe siècle jusqu'à maintenant, et ça a été réparti en 12 tranches chronologiques. Vous voyez qu'ici, les tranches se touchent les unes les autres en un schéma qui est tout à fait linéaire. Il n'y a pratiquement pas de perversion, pas de transmutation. Nous sommes véritablement dans quelque chose de parfaitement linéaire, et ceci en considérant 120 millions de mots. Alors ceci, c'est... Je me suis un peu trompé. Ceci, c'est la première méthode, celle de Jacquard, je le vois maintenant, c'est calcul sur l'absence-présence. Et on peut m'excuser, on peut me pardonner cette méprise, parce que celle-ci, c'est celle que je voulais montrer, sur la distance de l'abbé. Mais voyez qu'elles sont semblables. Elles sont semblables. Vous avez parfaitement le même schéma qui commence au XVIIe siècle, qui se poursuit même au XVIe siècle. Qui se poursuit et qui mène à l'époque moderne. Et justement, j'aborde ici cette question pour montrer que, tout à l'heure, je montrais que les méthodes étaient les mêmes. Eh bien, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ici, nous avons deux méthodes qui ne sont pas les deux mêmes que tout à l'heure. L'une, c'est Jacquard, et l'autre, c'est la méthode de l'abbé, et elles coïncident également. Cet exemple-là, c'est emprunté aussi à la méthode de l'abbé. Il envisage 70 auteurs de la littérature française, depuis le 17e jusqu'à maintenant. Essayez de lire, mais si vous êtes bons yeux, dans le fond, le schéma est un peu étroit là. Vous avez 70 noms à décrypter, mais heureusement, je vous ai mis en noir des titres 17e et 18e d'un côté. Regardez l'environnement de cela. Vous avez Diderot, Beaumarchais, Le Sage, Prévost et Marivaux. Vous avez là le 18e et le 17e est juste à côté avec Sévigné, avec Corneille, avec Urfé, avec Ray et d'autres, Finland, etc. Mais c'est un peu mélangé. Hein. 17e, 18e, il n'y a pas vraiment de différence. Ce n'est pas linéaire. Et de l'autre côté, sur la partie gauche, vous n'avez que le 19e et le 20e siècle. Donc c'est bien la chronologie qui fait le premier facteur, avec des interférences qui sont dues en grande partie au genre. Et justement, c'est ce qui sépare le bas et le haut qui fait intervenir le genre littéraire, puisque autour de la poésie, vous avez De Lille, vous avez Le Comte de Lille, c'est pas le même. Vous avez Rimbaud, Chénier, Verlaine, Baudelaire, Lamartine, Apollinaire. Vous avez donc là des gens qui appartiennent au cercle des poètes. Et puis tout à fait en haut, vous n'avez véritablement que des prosateurs. Il y a quelquefois quelque chose de gênant, c'est parce que le même auteur écrit quelquefois en poésie, en vers, et d'autres fois en prose. Alors, il faut savoir quel est le pourcentage de vers et de prose qui se trouvent dans les œuvres qui ont été recensées. Ça, c'était la méthode l'abbé. Si je prenais la méthode de Jacquard, c'est-à-dire présence-absence des mots, eh bien, on obtient là à peu près les mêmes choses, mais ce qui me semble quand même différencié, je ne sais pas si vous voyez le rouge et le bleu, ce sont les chemins qu'il faut emprunter pour aller d'un texte à l'autre. Et les distances, ce sont les distances qui sont en rouge, c'est-à-dire les distances verticales. Or, vous voyez que la verticalité ici désigne tout à fait en bas le commencement du corpus, c'est-à-dire Urfé, Corneille, Viau, c'est là que ça commence. Et vous avez donc, la coupure se trouve à peu près là. Alors, j'ai besoin de tenir ce papier qui flotte à cause du ventilateur. Vous avez une espèce de coupure qui est là et qui coïncide avec Chateaubriand, c'est ce qui est avant le 19e et ce qui est après. Donc la chronologie se reconnaît très bien de bas en haut. Mais il y a aussi des phénomènes qui appartiennent au genre littéraire. Là, par exemple, si vous aviez analysé cela, ce serait plutôt tout ce qui est veine, réaliste. Et là, nous aurions d'autres textes qui seraient plutôt spiritualistes. Enfin, ce n'est pas aussi net que je le voudrais. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons des mots qui n'ont pas la même orthographe. Alors que tout à l'heure, pour les mots fréquents, l'orthographe jouait assez peu. Mais quand il s'agit des mots rares, l'orthographe a une incidence considérable. Et c'est, vous voyez, dans ce calcul-là, là je vois surtout l'émergence de l'orthographe qui a beaucoup évolué depuis Urfé, Honoré d'Urfé, jusqu'à Aragon. Et cette méthode-là est beaucoup plus sensible aux accidents, aux erreurs qui peuvent se trouver dans le corpus, alors que l'autre méthode est beaucoup plus insensible à ces phénomènes marginaux. J'approche de la fin de mon temps de parole. Et j'aborde maintenant une autre équivalence ou une autre distinction. ce ne sont plus les méthodes que je vais comparer maintenant, mais ce sont les objets. Qu'est-ce qu'il faut donner à la machine pour établir une distance? Tout à l'heure, c'était des formes. J'ai oublié de vous le dire, mais c'était des formes graphiques sans autre procès. Seulement, beaucoup de gens me diront, mais les formes graphiques doivent être attachées à un lemme. Est-ce que ça change lorsque vous donnez, pour le même texte, une distance fondée sur les formes graphiques, comme on vient de voir, ou fondée sur le lemme? Eh bien, la réponse est, par exemple, dans ces deux graphiques superposés. Il s'agit de l'occlusion. C'est une thèse qui est en cours, qui va être achevée l'an prochain, et qui considère toute l'œuvre jusqu'ici écrite de l'occlusion, mais vient d'en publier encore un recueil nouveau, si bien que la thèse va être périmée au moment même où elle va sortir. Il m'était arrivé la même aventure avec Julien Gracq, qui me dit, attention, il y a un roman qui va... Je vais vous montrer tout le corpus de son œuvre antérieure. Il me dit, ah non, il y en a un qui va venir après. Et effectivement, l'autre est venu après, mais je l'ai intégré après. Bon, peu importe, il y en a quand même une trentaine, là. Et vous voyez, c'est assez difficile pour vous, si vous ne connaissez pas l'occlusion, de voir ce qui oppose la gauche et la droite, c'est en réalité le genre. Ici, vous avez les romans, et là, vous avez plutôt les œuvres ethnographiques. Où l'occlusion s'occupe du Mexique, s'occupe des populations indiennes. Et puis, la chronologie, elle est là. Elle va du bas. Vous voyez, les numéros ici correspondent au rang chronologique. Le procès, c'est le premier. Après, vous avez le 2, 3, 4. Vous voyez, les premiers, le nouveau roman est là. Et puis, les derniers romans sont là. C'est la chronologie. Bon, mais ce n'est pas le commentaire qui m'intéresse. C'est de montrer que le deuxième... Ici, le deuxième, si vous regardez bien, le deuxième est fait exactement de la même façon. Donc, deux graphiques qui sont superposables. Or, le premier était lemmatisé, comme on dit, étiqueté, c'est-à-dire que chacun des verbes réunissait toutes les formes du verbe, alors que le deuxième, ce sont les formes brutes. Donc, on lemmatise ou on ne lemmatise pas, ça obtient. À ce niveau très général, où l'on envisage la totalité d'un texte, ça obtient le même résultat. Alors, la conclusion, c'est pas la peine de se casser la tête pour lemmatiser, puisqu'on aura la même distance. Oui, mais il y a d'autres choses qu'on peut obtenir quand on lemmatise et qu'on ne peut pas obtenir si on ne lemmatise pas. Par exemple, si on veut faire une distance établie non pas sur les mots, lemmatisés ou pas, mais sur les codes grammaticaux, sur les catégories grammaticales, c'est encore une distance. Ça. Est-ce que deux textes partagent la même constitution syntaxique, les mêmes schémas syntaxiques? Le style, c'est peut-être davantage une question de syntaxe qu'une question de vocabulaire. Donc, il faudrait apprécier cette distance-là. Vous ne pouvez le faire que si vous avez un corpus étiqueté, ayant des codes grammaticaux. Donc, loin de moi de... l'imprudence de dire qu'il ne faut pas lemmatiser, que ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut servir. Mais dans certains cas, comme celui-ci, la distance très générale entre deux textes, eh bien, ce n'est pas essentiel, puisqu'on obtient le même résultat, qu'on lemmatise ou non. Bon, cet exemple est encore plus probant. Il s'agit de l'Évangile. Seulement, il y a quatre évangélistes. Et puis, j'avais pris trois traducteurs, la TOB, c'est-à-dire la traduction œcuménique, celle de Maritsu, et puis celle d'André Chouraki. Donc, trois traductions très différentes en français des quatre évangélistes. Ça me fait 3 fois 4 égale 12 textes. Alors, vous avez effectivement 12 textes qui sont là. Comment ça se lit? Eh bien, vous voyez qu'ici, Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean, qu'il soit traduit par Chouraki, Serge, qu'il soit traduit par la TOB, ou qui soit traduit par Maritsu, eh bien, Jean se sépare du reste. C'est à partir de Jean que la distance est la plus grande avec tout le reste. Qu'il s'agisse de Marc, ou de Luc, ou de Matthieu, lorsque deux traducteurs, l'un la TOB, l'autre Maritsu, concernent ces trois évangélistes, les distances sont proches. Alors il y a quelque chose qui est... c'est la seule surprise, celle que j'attendais. C'est la suivante. Quand c'est traduit par Chouraki, alors là, vraiment, ça s'écarte. Chouraki, avec sa tradition qui voulait représenter l'évangile dans la culture juive, et donc il a un peu orienté sa traduction, et quel que soit l'évangile traduit, ça porte sa marque. Vous voyez que là, Marc traduit par Chouraki, Matthieu par Chouraki, Luc par Chouraki, eh bien, ce sont des textes qui sont proches l'un de l'autre à cause du traducteur. Et si Jean subit d'abord l'influence de l'évangéliste, il subit aussi un peu l'influence du traducteur, puisque vous voyez que Jean traduit par Chouraki, ce n'est pas très loin, il y a ce chemin à aller pour rejoindre les autres textes traduits par Chouraki. Donc, de ces deux facteurs, il y avait la signature de l'évangéliste. Et deuxième signature, la signature du traducteur. Laquelle est la plus importante? La réponse, c'est celle de l'évangéliste quand il a une personnalité très marquée comme Saint Jean. Après, c'est le traducteur, Chouraki, qui est le plus audacieux des traducteurs. Mais je me suis un peu écarté, je voulais que vous compreniez ce graphique, je vous l'expliquais, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que si vous prenez ici les formes graphiques ou si vous prenez les M, vous obtenez strictement le même. Oh, il n'y a que un millimètre ou deux d'écart, mais c'est de toute façon, l'interprétation sera strictement la même. Je vais aller encore plus loin, si vous permettez, en faisant une expérience ici un peu bizarre. Et là, on s'écarte véritablement des littéraires, parce que j'ai perverti le texte. J'ai pris le texte de l'Évangile, j'ai enlevé les blancs. Alors, comme on faisait jadis dans l'Évangile, dans les textes anciens, il n'y avait pas de blancs. Hein. Bon, mais en réalité, j'ai gardé le blanc en disant que c'était un caractère comme un autre. Il n'y avait donc plus de mots, il y avait un grand mot qui faisait des kilomètres de longueur. Alors, j'ai coupé après, de façon arbitraire, j'ai coupé des mots. Vous voyez le texte ici. Hein, voilà les mots, orig, in, de, Jésus, etc. Si vous lisez, vous reconnaissez le texte, mais il a été coupé grossièrement par quelqu'un d'inculte. Alors, il n'y a aucun des mots qui appartient à la langue française. Sinon, par hasard, il peut y en avoir quelques-uns, mais ce sont de faux mots. Par exemple, Mina, ici, ce n'est pas du tout celui qui existait dans le texte. Or, en donnant ce texte-là, où l'information essentielle, c'est la séparation des mots, la reconnaissance des mots, n'existe plus, il n'y a plus de thématique, il n'y a plus de syntaxe, il n'y a plus rien du tout, vous obtenez le même schéma que celui que je vous montrais tout à l'heure. La même chose, la même typologie des textes. Que ce soit sur N, c'est-à-dire sur la fréquence, ou que ce soit seulement sur la présence-absence. La même chose. On pourrait aller plus loin et presque isoler les digrammes, c'est-à-dire des mots qui n'auraient que deux lettres maximum. Je crois qu'on aurait à peu près la même chose. Donc, c'est pour vous indiquer que ces méthodes-là sont très solides. Et elles permettent les erreurs, elles permettent des changements, et l'information qu'elles donnent, la typologie des textes, subsiste malgré tout. Et ça, c'est intéressant dans la mesure où, sur Internet, actuellement, on peut avoir beaucoup de textes, mais qui sont de qualité médiocre, qui ont des erreurs, qui ont des infidélités. Eh bien, si vous prenez des méthodes très puissantes, très robustes, comme on dit, eh bien, ça n'aura pas grosse influence. Et vous aurez des résultats qui seront tout de même probants. Je ne sais pas si j'ai encore du temps.
Je crois que non. Non, plus beaucoup. Il faut conclure, oui,
je crois. Je m'arrête ?
Non.
Alors, ce serait un autre transparent et toute une série où je montrerai qu'il faut quand même lemmatiser quand on veut obtenir des structures grammaticales. Et là, c'est le corpus d'origine que je vous montrais dans le premier graphique. Je vais quand même faire la boucle. Et dans le premier graphique où il y avait un corpus qui s'appelait Batelier et qui était en principe proposé aux éducateurs du secondaire ou du supérieur pour avoir un corpus représentant une grande partie de la littérature française. Et il y avait tous ces auteurs qui sont là. Il y en avait d'autres que j'ai introduits depuis. Et j'avais lemmatisé tout cela. Donc, tout cela avait été corrigé et lemmatisé. Il y avait donc des catégories grammaticales. Or là, vous obtenez, en bleu, une typologie des catégories grammaticales, et ça c'est traditionnel, j'ai fait des centaines d'analyses comme cela, on obtient toujours le clan du verbe contre le clan du substantif. Vous voyez que le verbe est complètement à gauche et le substantif à droite. Alors autour du verbe, il y a ses acolytes, les pronoms personnels, les pronoms adjectifs, les adverbes, le verbe être et le verbe avoir, que j'ai un peu distingué des autres verbes. Et de l'autre côté, ben, vous avez les adjectifs, vous avez les déterminants, vous avez les prépositions. Et puis, vous avez aussi certains mots, les coordonnants, les relatifs et les subordonnants, ben, qui ne sont pas véritablement liés à un clan plutôt qu'à un autre, mais qui, ici, ordonnent le deuxième facteur. Alors, c'est une pensée discursive, une pensée philosophique, alors là, on a un grand usage des relatifs, des subordonnants, alors que lorsqu'il s'agit de poésie, eh bien, cet usage est beaucoup plus rare. Donc, le deuxième facteur est un facteur qui envisage le genre littéraire. Et puis, les auteurs se répartissent, ici, comme vous pouvez voir, naturellement, du côté du verbe, vous avez le théâtre, surtout la comédie, vous avez Molière. Racine appartient au théâtre, mais il y a chez Racine une évolution. Il est de plus en plus contemplatif, de moins en moins actif, et il va du verbe avec Andromaque, et il s'arrête à Athalie. Vous voyez que vous avez tout le circuit de Racine qui va du verbe au substantif, et en particulier avec Esther et Athalie, mais aussi avec Phèdre, vous avez un basculement vers l'univers du substantif, l'univers poétique. Voilà, si j'avais eu du temps, je n'en ai plus. Ce que j'aurais essayé de montrer, c'est qu'il est bien beau d'établir une distance, ce que j'ai fait, et c'est tenté de faire sur de divers corpus. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de caractériser cette distance. À quoi tient-elle? Parce que vous voyez deux textes opposés. À quoi tient cette distance? Qu'est-ce qui a fait que les deux textes s'écartent ou se rapprochent? Où sont les atomes qui s'accrochent et les atomes qui ne s'accrochent pas? Eh bien, il y a d'autres méthodes complémentaires qui permettent de le savoir. Et en particulier, lorsque vous faites le calcul des spécificités, c'est-à-dire des mots qui sont spécifiques d'un texte, qui sont davantage employés dans un texte, vous avez l'explication avec cette liste de mots spécifiques d'un texte que vous rapprochez de la liste d'un autre texte spécifique de cet autre texte, à ce moment-là, vous avez des éléments, vous avez les mots qui vous permettent de savoir ce qui s'oppose. J'ai plein de graphiques que je vous aurais montré, mais je ne le ferai pas. Et d'autres choses encore seraient de revenir au texte et en montrant une page, de montrer quels sont les mots qui sont caractéristiques de ce texte-là, en les faisant apparaître en rouge. Je pourrais vous le faire parce que j'ai une machine qui est branchée ici, mais mon temps de parole est terminé. Je ne fais là qu'ouvrir des perspectives que j'ai, avec mon grand âge, que j'ai emprunté bien souvent. Et je pourrais le faire avec vous si ça vous intéresse pendant ces deux jours où nous allons vivre ensemble. Voilà, je m'arrête parce que je vois l'œil furibond de François.
Non, très satisfait de cet exposé extrêmement riche. On peut d'ailleurs poser une question à Étienne Brunet en lui disant, mais au fond, qu'est-ce qu'il y avait sur votre... qu'est-ce que vous vouliez nous montrer tout à l'heure? Malgré tout, comme... on peut limiter à deux, trois questions pour ne pas prendre trop de retard. Et les autres interventions pourront se faire dans la discussion générale de demain après-midi. Alors, y a-t-il des questions, donc? Alors, il y a un micro pour les questions, oui. C'est pas pour vous couper la parole que je vous dis ça.
Oui,
Pierre Lafond.
Oui, Pierre Lafond. Donc, Je voulais poser la question à Étienne Brunet, qu'il a un tout petit peu engagé à la fin de son exposé, à savoir, on voit très bien dans les schémas que tu nous présentes, qui sont très clairs, que il y a divers facteurs qui influencent les contrastes sur les textes. Le facteur des genres, le facteur des auteurs, le facteur du temps, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de caractériser effectivement chacun de ces des genres. Par exemple, quand tu as l'ensemble de l'œuvre de Victor Hugo, tu vois que le roman s'oppose à la poésie, etc., que la correspondance s'oppose au roman. Qu'est-ce qui caractérise chacun de ces genres, en définitive? Est-ce que ça veut dire quelque chose de dire roman? Par exemple, tu as les romans de Rousseau qui s'opposent, je ne sais pas, aux confessions. Hein, et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre les romans de Victor Hugo et ceux de Rousseau? Et est-ce qu'il y a quelque chose de commun à toutes les pièces de théâtre, etc.? Qu'est-ce qui fait, finalement, les caractéristiques de genre? Je crois que c'est la fin, tu n'as pas eu le temps d'en parler, mais c'est ça qui nous intéresse.
Je reprends d'autres questions. Je reprends tout de suite. Oui, c'est effectivement là que je voulais en venir, c'est qu'il y a des pressions plus fortes les unes que les autres, et en particulier, je crois que celle du genre est la plus forte de toutes. Et ce que j'ai observé jusqu'ici, c'est que avant de trouver les auteurs, avant de trouver les époques, on trouve presque toujours le genre. Mais le genre lui-même est une... Pardon, je m'approche du micro. Le genre lui-même est multiforme. Et tu viens bien de dire que le roman de Rousseau n'est peut-être pas comparable au roman de Leclésio. Il y a un romancier célèbre, Maupassant, qui dans la préface de Pierre et Jean dit... c'est pas un roman ce que je vais vous offrir, mais de toute façon le roman n'existe pas. Si vous voyez tous les chefs-d'œuvre de Don Quichotte, etc., eh bien, il n'y a aucun qui soit de vrai roman. Et donc, il détruit la notion de roman. Et combien d'autres écrivains ont dit oh, c'est pas un roman quand Gide publie Les Nourritures Terrestres, ou non, c'est Les Moralistes, il dit sotie. Sotie. Qu'est-ce que c'est que le genre sotie? Il est le seul à avoir utilisé. Donc les écrivains, généralement, rejettent les étiquettes, et même celles de roman, ou alors ils prennent l'étiquette roman pour recouvrir n'importe quoi. C'est toute une recherche qui devrait être faite pour essayer, et c'est ce que fait un peu François Rastier avec son équipe, essayer de savoir ce que sont les genres littéraires. Malheureusement, ce sont des genres, ce sont des réalités flottantes au cours du temps, et selon les écrivains. Mais il n'empêche que c'est là qu'il faut travailler, et pas seulement sur les monographies d'auteurs. C'est plus facile. Ce qu'il faudrait saisir, c'est les genres.
Une autre question, Yves-Marie Vizetti. Non, il faut se...
Est-ce que, bon, les graphiques que vous nous avez présentés, je suppose, s'appuient sur les deux premières dimensions, les meilleures. Alors, donc, c'était une question sur le choix de ces dimensions d'affichage. Est-ce que ce sont celles qui sont simplement fournies automatiquement par l'analyse? Simplement. Rien à faire pour ce micro. Oui, voilà. Est-ce que ce sont simples. Excusez-moi. Voilà. Donc, ma question était d'abord sur le type de. La façon de choisir les dimensions qui servent à la sélection de ce plan de projection. Est-ce que ce sont simplement. Les deux meilleures dimensions du point de vue de par exemple de la portion de métrique qui est représentée par ces deux dimensions. Donc est-ce que c'est le résultat automatique d'une sélection automatique? Et puis deuxièmement, puisque vous dites qu'il y a évidemment donc la pression du genre, vous êtes apparu avec toutes ces analyses la plus forte, alors supposons qu'après on prenne un autre critère, par exemple on reprenne les auteurs. Donc, on distribue les œuvres en classes et puis on fait une analyse discriminante sur ces classes. Et donc, on trouve d'autres directions, je suppose. Et est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça qui permettrait donc de trouver les dimensions d'étagement des auteurs en prenant directement ce critère discriminant? Voilà, c'était la deuxième question.
Oui, on pourrait intervenir dans les données en faisant d'abord une classification, en mettant certains auteurs ensemble, dont on dirait qu'ils constituent une unité. Et puis, en faisant des regroupements comme ça, on pourrait peut-être dire que tel genre s'oppose à un autre parce qu'on aurait préalablement mis ensemble des textes qui appartiennent à tel genre particulier. Avec les auteurs, c'est facile, puisqu'on les oppose les uns aux autres. C'est très facile à classer, mais les genres, ça suppose qu'on fasse des regroupements